Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre écoute. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, pour redécouvrir le sens de Noël. J'aime bien cette question-là. Je ne sais pas si vous aimez bien cette période de l'année. Et c'est vrai que c'est une période un peu particulière, hein, parce que bon, je ne vous apprends rien. Bientôt, c'est Noël. J'espère que vous n'êtes pas trop en retard ou que vous ne l'apprenez pas maintenant. Sinon, voilà, gare à vous. Surtout toi, ma sœur, les cadeaux. Ça rigole pas. Non, je rigole. Mais voilà, je sais pas pour vous Noël, mais ça fait un peu deux camps. Il y a ceux qui aiment trop Noël et qui voudraient que ce soit Noël dès le 15 novembre, avec direct des sapins, des lumières, les séries de Noël. Ils sont à fond. Et puis il y en a d'autres qui aiment pas trop Noël parce que Noël, ben voilà, c'est la fin de l'année, c'est le froid, c'est des repas en famille parfois qui ne terminent pas. Mais c'est pas mon cas, ça va, mais voilà, en tout cas, je sais que parfois c'est pas évident. Et en même temps, j'ai remarqué aussi que Noël, c'est l'une des fêtes qui est la plus éloignée de son sens premier. Alors, en réfléchissant à Noël, je me suis dit, mais ouais, c'est un peu la fête la plus éloignée du sens qu'elle avait à la base. Et je me suis dit, voilà, en même temps, Noël, il n'y a pas que ça. Je sais qu'il y a des gens parfois qui mettent la crèche sous le sapin, il y a encore parfois cette tradition-là, mais pourquoi ça existe en fait, Noël? C'est un peu cette question, quand j'étais pas chrétien, je me demandais un peu pourquoi ça existait. Alors, je savais que c'était pour fêter la naissance de Jésus, mais je me suis dit, mais pourquoi en fait la naissance de Jésus, en fait, surtout 2000 ans après? C'est quand même un sacré anniversaire qu'on fait depuis longtemps, et voilà, la question que je me disais, mais c'est qu'est-ce que la naissance de Jésus, finalement, peut bien changer dans nos vies en 2022? Quel sens ça a, ce truc-là? C'est pas possible que ce soit juste là pour mettre une crèche sous un sapin ou s'offrir des cadeaux. Il y a forcément un sens qui est plus profond que ça. C'est ce que je me suis dit. Et puis, quel est le véritable sens de Noël? C'est un peu la question que je me pose. Pourquoi des millions de gens, depuis des milliers d'années, fêtent Noël? C'est quand même un truc de dingue quand on y pense, sur toute la Terre. Et en quoi Noël nous concerne? En quoi Noël, ça te concerne personnellement? Ouais, est-ce que Noël, c'est juste une fête résumée par des cadeaux, par des repas de famille? Et bien voilà, c'est ces questions-là auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Et voilà, le meilleur moyen pour nous de comprendre Noël, ben c'est d'aller voir ce que dit la Bible, parce que c'est un peu la base de la chose. Et on va voir un passage de la Bible qui est un peu comme un tableau. Vraiment, je vous invite à le voir comme un tableau. Et voilà, on va essayer de se projeter dans ce tableau, de se projeter dans cette scène et de voir ce qui se passe pour nous. Pour vous introduire un petit peu le passage, donc, le passage de la Bible, c'est dans Ésaïe. C'est un personnage qui a vécu à peu près 740 ans avant Jésus, donc c'est il y a très très longtemps, ça remonte à très loin. Et puis voilà, cet homme-là, il a été utilisé par Dieu à la fois pour prévenir le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, qui faisait beaucoup de choses immorales, qui faisait beaucoup de choses mauvaises aux yeux de Dieu, et à la fois il a utilisé Dieu pour dire qu'un jour il sauverait ce peuple. On a vraiment ces deux trucs dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe qui dit des prophéties un peu de malédiction, donc c'est un peu flippant. Et à la fois, Ésaïe qui dit des prophéties en disant qu'un jour, Dieu, il viendrait sauver son peuple. Et nous, on va lire juste le chapitre 6, qui est vraiment crucial dans la vie d'Ésaïe. C'est un peu le début pour lui. En fait, crucial parce que c'est dans cette année-là qu'il va vivre une révélation qui va en fait lui donner de devenir un jour un homme de Dieu, un serviteur et même un prophète. Et donc voilà, pendant cette lecture, on va essayer d'être spectateur. Vous allez voir, c'est assez ouf, hein, je vous préviens tout de suite. On va voir un peu des trucs de dingue aujourd'hui et on va essayer de s'immerger là-dedans et de voir qu'est-ce que ça veut dire pour Ésaïe, mais aussi pour nous. Voilà le passage donc que je vous lis. Donc là, c'est Ésaïe qui parle, c'est le prophète qui a écrit ça. « L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Ouais, je trouve ce passage vraiment incroyable. On est face à quelque chose de pas commun. Pour le coup, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ce n'est pas tous les jours que quelqu'un a une révélation aussi puissante que celle d'Ésaïe. Et maintenant, vous allez voir, on va détailler un peu parce qu'on pourrait passer vite ça. Et on va voir ce que ça veut dire finalement pour nous. Eh bien, cette révélation-là. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est le Dieu glorieux. On va décrire ça. Je recite donc le premier verset. Ésaïe dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. » Donc, je me suis posé la question en lisant ce verset, et tout le passage d'ailleurs, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu ? Qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Dieu ? Alors la première chose qu'on peut apprendre et comprendre facilement, c'est que Dieu il est assis sur un trône très élevé. Bon, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ça signifie qu'il est élevé au-dessus de nous, déjà. Élevé au-dessus de la terre. Élevé au-dessus de toute la création. Déjà, ça donne un autre aspect. Il est élevé au-dessus de tout. Et le fait que Ésaïe voit Dieu siégeant sur un trône très élevé au-dessus de tout, ça nous fait comprendre que Dieu y règne sur toute chose, comme un roi. Déjà, on comprend que Dieu est roi. Mais pas n'importe quel roi, il est le roi. Voilà ce que dit la Bible, en fait. Son trône est élevé au-dessus de tout. Rien, absolument rien dans l'univers n'est au-dessus de lui. Et voilà déjà ce que ça veut dire, ce trône élevé, Dieu est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de tout et il est le roi. Donc, il siège le roi sur toute chose. Alors pour nous, le terme roi, c'est pas ouf, hein. Ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs, surtout en France, mais c'est bien mérité parce que franchement, des rois corrompus, il y en a eu plein, et malheureusement, je crois qu'il y en a encore, et il y en aura encore. Mais ce qui est excellent avec la révélation de Dieu, dans la Bible en tout cas, c'est qu'il se révèle comme étant un très bon roi. Un très très bon roi. Il n'est pas corrompu, au contraire, hein, un des attributs de Dieu, c'est qu'il est pleinement juste. Et je trouve ça vraiment rassurant de me dire que si Dieu est roi, eh bien il est pleinement juste. Il est le bon roi. Pas d'injustice avec lui, pas de mauvais jugement, pas d'erreur. Et notre monde, il a tellement besoin de justice. Hein. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est affreux, en fait, l'injustice. C'est quelque chose qui nous ronge, en vrai. On a tellement besoin de justice et c'est tellement bon de se dire que Dieu est un roi juste. Et la Bible, elle ne nous dit pas qu'il est seulement juste. Elle nous dit qu'il est entièrement juste, qu'il est toujours juste. Autrement dit, il est juste dans tout ce qu'il est, ça c'est dans sa nature, mais il est juste aussi dans tout ce qu'il fait, et donc ça c'est dans ses actions. Dieu est entièrement juste, pleinement juste. Et donc Dieu il se révèle d'abord à Ésaïe en tant que roi élevé, ça c'est la première partie. Puis on voit dans le verset, je ne sais pas si vous vous rappelez, « Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. » Et ce détail, il accentue encore sa majesté. En gros, tellement qu'il est grand, tellement qu'il est majestueux, rien que son vêtement, alors c'est une image, hein, elle remplit le temple. Comme pour montrer que même le plus gros édifice qui soit, bah, il est rempli juste par le bout du vêtement de Dieu. Comme pour remettre un peu les humains à leur place, vous voyez. Des fois, on aimerait bien mettre Dieu dans une boîte, l'enfermer, mais aucun édifice, quelle que soit sa taille ou sa beauté, ne peut contenir Dieu. C'est ça aussi qu'on peut comprendre là-dessus. Il est trop imposant, trop glorieux pour être enfermé. Et donc cette vision a dû saisir Ésaïe. Déjà, je pense qu'il devait être assez choqué. C'est pas souvent, comme je disais, qu'on voit des choses comme ça, mais on va continuer, vous allez voir, ça va augmenter encore en puissance dans la révélation. Donc, on a lu ça tout à l'heure, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Alors maintenant, après avoir vu ça, là, Dieu élevé, il voit au-dessus de Dieu, enfin, autour comme ça, des anges. Les séraphins, ça correspond à un groupe d'anges dans la Bible, qui sont avec Dieu et qui l'adorent. Dieu est vraiment glorieux, et là on a une bonne vision de ça. Dieu qui trône, tellement qu'il est saint, des anges qui chantent comme ça autour de lui, tellement qu'il est parfait, ils disent tout ce qu'il est. Et puis d'abord, ils disent trois fois « Saint, Saint, Saint et l'Éternel ». Et le mot « Saint », il est un peu déformé aussi dans notre société. Il faut qu'on le redéfinisse avec ce que dit la Bible. Saint, ici, là, dans ce passage, ça peut vouloir dire soit mis à part, comme si Dieu était mis à part, soit, et c'est mon préféré, non contaminé. J'aime bien le non contaminé parce que franchement, quand tu regardes la Terre, tu captes vite que nous, on est quand même assez contaminés. Et donc, ça donne une belle image, je trouve, de Dieu qui n'est pas contaminé. Il n'est pas contaminé par le mal, il est totalement pur, sans aucune noirceur. Ça, c'est ce que dit ce passage. En gros, le saint veut dire que le mal ne le touche pas. Et comme pour la justice, encore une fois, on a dit tout à l'heure, il est entièrement juste, et bien sa sainteté, elle traverse tout son être. C'est pas juste un trait de caractère, en fait. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de sa nature fondamentale. Dieu est saint et non contaminé. On la retrouve dans toutes ses qualités, en fait, cette sainteté. Par exemple, sa sagesse, elle est sainte. Ça veut dire qu'elle est totalement pure. Son amour, il est saint. Sa colère, elle est sainte. Sa morale, sans aucune tache, sans aucune noirceur. Donc ça nous dresse un peu un tableau de Dieu. Tout ce que Dieu est, encore une fois, est saint, pur et parfait. Tout ce qu'il fait est saint, pur et parfait. Sans noirceur. Et je vous le dis direct, on ne connaît pas une telle sainteté dans notre monde. En fait, c'est ce qui est difficile à comprendre, je pense, avec Dieu, c'est qu'on ne connaît pas ça. Tous et tout, on a tous en nous une part de noirceur, on le voit, hein, très rapidement, des fois on switch. mais Dieu, lui, il n'a pas ça. Il n'a pas cette noirceur-là. Tout son être est saint. D'ailleurs, il est tellement saint que même les anges, quand ils viennent devant lui, ils se cachent. Vous avez vu, ils ont des ailes, ils se cachent parce qu'ils ne peuvent pas rester dans sa présence. C'est intenable, en fait. Alors, si même les anges ne peuvent pas se tenir devant lui, je me suis dit, franchement, bon, on est un peu en galère. On est un peu en galère pour nous. Personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. Personne. Dieu est trop saint. Et puis, ils disent trois fois saint. Vous avez vu, c'est un peu bizarre, saint, saint, saint. Alors, le truc qu'on peut comprendre, c'est que c'est comme si saint fait écho aux autres saints. En fait, il est tellement saint que le dire une fois, ça ne suffit pas. C'est comme des fois, je ne sais pas si vous avez vu, tu as un bon moment et tu dis c'était trop, trop bien. En fait, les enfants, ils disent c'était trop, 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 trop bien. C'est comme si on veut accentuer ça. Et là, les anges, ils disent il est saint, saint, saint. En gros, c'est vraiment énorme. Dieu est entièrement saint. Ça, c'est vraiment des choses, il est entièrement juste, entièrement saint. Franchement, pour nous, c'est vraiment dur à comprendre. Et voilà ce que dit la Bible, en tout cas. Et puis on voit après qu'ils se criaient l'un à l'autre, donc Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Ils disent maintenant qu'il est le maître de l'univers et que sa gloire remplit toute la terre. Et on va se focaliser sur maître de l'univers. Et là aussi, ça va forcément nous dépasser. La Bible a dit que Dieu, il est créateur de tout, d'absolument tout, et qu'il est le maître absolu de tout. Il est même dit que l'univers, il a été créé à partir de sa parole. Là, on touche vraiment quelque chose d'assez ouf. Et ça veut dire, en gros, qu'avant que Dieu n'entame la création de l'univers, il n'y avait rien d'autre qui existait à part lui. Il est l'Éternel, celui qui existe de tout temps. Il n'y avait rien d'autre. Avant qu'il commence à créer, il n'y avait que lui. Et là, quand on réfléchit à ça, c'est vraiment incroyable. On peut s'y perdre. Et c'est même incompréhensible, je pense, dans un certain sens. Et je ne pense pas qu'on puisse comprendre ces choses-là tellement qu'elles nous dépassent. C'est vrai qu'on a grandi dans une connaissance de l'univers, des choses qui nous entourent, et ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'il faut y penser. Mais en l'occurrence, le Dieu maître de l'univers, je pense que ça nous dépasse. Et que finalement, on ne peut que être humble face à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de comprendre, mais ça reste quand même complexe. Et j'aime bien cette phrase qui dit, en théologie, on dit qu'on ne peut pas comprendre Dieu, mais on peut le connaître. On peut connaître Dieu. Dieu ne veut pas que tu le comprennes. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Ce qu'il veut, c'est que tu le connaisses. Tu le connaisses de manière personnelle. On peut connaître quelque chose sans le comprendre. Et c'est un peu ce que Dieu veut aussi. Ce qui n'empêche pas de réfléchir, mais il veut que tu sois en relation avant tout. La relation, elle prime sur ces choses-là. On parlera plus tard justement de la relation. Dieu, il est donc infini. Infini dans le sens qu'il n'a pas de limite, aucune limite. On l'a dit, il est bien plus grand que tout ce qu'il a créé, que tout ce qui existe. L'image que moi j'aime bien prendre pour expliquer un peu ça, c'est comme si en fait Dieu il tient tout l'univers dans la paume de sa main. Alors cette image elle est imparfaite parce que franchement, je crois que la main de Dieu est bien plus grande que ça en fait. Mais c'est pour vous donner une image, Dieu tient tout l'univers dans sa main. Dieu est tellement grand, tellement infini en tout cas, c'est ce que nous dit la Bible et j'aimerais qu'on comprenne ça en tout cas de Dieu. Dieu nous dépasse et tellement on voit des fois Dieu petit finalement, alors que dans la Bible il n'est pas dit ça. Et j'aimerais ouais, qu'on s'arrête deux secondes, parce que là franchement déjà rien que là il y a du lourd, il y en a pour une vie à réfléchir là-dessus. Et on a vu en tout cas que Dieu il est élevé au-dessus de tout, on a vu qu'il est le roi juste et qu'on peut se confier pleinement en lui, on a vu qu'il est saint et pur et puis qu'il est maître de l'univers. Ces attributs-là, ils sont uniques à Dieu. Des attributs qui sont propres à lui. Et si on prend le temps de les observer, de les méditer, ça peut vraiment changer notre façon de voir. De voir le monde, de nous voir nous-mêmes, de voir Dieu. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, comme je disais, on oublie tellement ces vérités-là. On vit notre vie comme si Dieu il était petit, comme si Dieu c'était notre pote, comme si c'était un homme, vous voyez. Mais en fait, pas du tout. Personne ne possède ces qualités-là. Et en fait, quand on réfléchit à Dieu, on peut être que ébahi devant lui. Et je pense que ce passage aussi, il est là pour qu'on soit ébahi devant Dieu, qu'on soit passionné de lui, pas juste dans une sorte d'obligation. Il y a quelque chose d'incroyable. Et pour grandir dans notre foi, le premier conseil qu'on peut avoir, c'est de garder les yeux fixés sur Dieu, en fait. Pas sur nous. Et souvent, on a les yeux sur nous. Mais Dieu, il dit, regarde-moi, regarde comme je suis. La Bible nous dit qu'il est la lumière de la vie. Et en tout cas, Isaïe a dû être choqué. Là, je pense qu'il était assez scotché. Et on va voir notre deuxième point. Le deuxième point, c'est la contamination de l'humanité. Alors, voilà, vous savez ce que c'est la première réaction d'Isaïe face à cette vision. On peut se dire, voilà, je ne sais pas, il devait être ébahi ou autre. La première chose, c'est la crainte. Il a eu peur, il a été terrifié. Et sa peur, elle vient d'un point très particulier. Elle ne vient pas de n'importe quoi. Voilà ce que Esaïe dit tout de suite après avoir vu ça. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel, le maître de l'univers. » Malheur à moi. La première réaction qu'il a, eh ben, c'est « Oh, je suis perdu en fait. Là, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. » La première chose qu'il a, c'est qu'il reconnaît son impureté. Et en même temps, on le comprend parce qu'il se retrouve quand même face à Dieu. Et tout ce qu'on vient de dire dans l'analyse, là, c'est posé. Lui, il l'a pris en pleine tronche. Il a vu tout ça. Il a été scotché par Dieu. Et donc, on peut très facilement comprendre, en fait, sa réaction. Et même n'importe qui d'entre nous, franchement, se retrouve face à une telle grandeur. Je pense qu'il réagirait comme Isaïe. Il dit même que son peuple, lui, est tout impur aussi. Tout le monde, face à un Dieu aussi saint, ressent son impureté. C'est obligatoire. Qui peut tenir en fait face à lui, franchement. Même les anges, ils se cachent. Et c'est là qu'on commence à avoir un problème avec cette révélation. Parce que à la fois, tu as Dieu qui se révèle à l'humanité, et à la fois, eh ben, t'as Dieu qui est trop saint, trop glorieux, trop pur. Et ça, c'est une sorte de paradoxe, en fait, dans ce passage. Et dans toute la Bible. Et on a dit que saint voulait dire non contaminé, mais franchement, qui d'entre nous n'est pas contaminé? Qui peut se présenter devant Dieu et dire à Dieu, bon, franchement, je suis comme toi. Nickel. Ok, on est pareil. C'est impossible. C'est vraiment impossible. La vérité, c'est que notre monde, il est contaminé. La création de Dieu, on a dit tout à l'heure, on l'a détruit non-stop. On s'entretue nous-mêmes depuis toujours, à peu près. En fait, c'est... Et même les chrétiens, vous voyez, ils n'ont pas fait du bien. Donc, en fait, il y a un vrai problème. On est contaminé. Aucune communauté, aucun endroit n'est parfait. La Bible elle dit qu'un jour, Dieu va juger nos actes sur terre. Et je crois que beaucoup vont dire comme Esaïe, wow, « Malheur à moi, en fait. Malheur à moi. » Et donc, cette révélation, elle provoque cette compréhension en Esaïe. C'est comme si voir Dieu, en même temps, nous fait voir notre propre cœur. On est contaminé par le mal. C'est ça que provoque la révélation de Dieu en nous. Notre impureté, elle nous coupe de la présence de Dieu. Il n'y a qu'à voir le monde, en fait, on est coupé de Dieu. En fait, c'est vraiment ça. On est coupé, séparé de Dieu. Dieu, il aimerait qu'on s'approche de lui, mais on ne peut pas. C'est comme si Dieu, c'est un feu dévorant, j'aime bien cette image, et que nous, on est une bougie. Tu vois, tu t'approches, tu as beau essayer, oh, j'ai trop envie, mais en fait, tu brûles, tu ne peux pas tenir devant Dieu. C'est impossible, c'est intenable. Parce qu'on n'est pas pur. Et s'il nous juge selon nos actes, on est fichu. Personne n'y tiendra. Et donc, Ésaïe ressent ça. Alors, comment faire? C'est un peu la question, genre, mais c'est quoi ce truc? Comment on peut s'approcher de Dieu? On va le voir maintenant. Donc, voilà un petit peu le résumé de ce qu'on a vu. On a vu un Dieu glorieux, et encore, franchement, il y a plein d'autres trucs à dire. On a vu une toute petite partie de ce qu'est Dieu. Et puis, on a vu que l'humanité, elle est contaminée. Je pense que c'est assez simple à s'en rendre compte. Alors, vous vous demandez sûrement, voilà, c'est quoi le rapport entre tout ce que je dis et Noël? Ben moi aussi, je me demande. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Ouais, on peut se demander, voilà, c'est quoi le rapport? Eh bien, si on ne comprend pas ces deux trucs par rapport à ce qu'on a dit, en fait, on ne peut pas comprendre Noël. Et c'est pour ça que j'ai fait une sorte de truc en arrière pour comprendre Noël. Ces deux points, ils sont obligés d'être compris. Dieu est glorieux et puis l'humanité est contaminée. Le troisième point, donc, c'est Dieu au milieu de nous pour Noël. La Bible nous enseigne que Dieu, en fait, il ne veut pas qu'on soit séparés. Ce n'est pas sa volonté du tout, en fait. Et ça, c'est rassurant. Au contraire, Dieu, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on vive en harmonie avec lui. Et le texte, justement, il va nous en donner une preuve. On continue avec ce texte d'Ésaïe, hein, il y a tout là-dedans. Juste après que qu'Ésaïe comprenne et qu'il dise « Ok, bon, je suis impur », on voit qu'il y a un ange qui va venir, hein, des séraphins, il va prendre une pince, il va prendre une braise, qui est devant Dieu, puis il va le mettre sur la bouche d'Ésaïe. Donc là, je pense que ça devait être quelque chose d'assez intense. Bon, c'est en vision, à mon avis, je ne pense pas qu'il l'ait ressenti. Et voilà ce que dit l'ange après avoir mis la braise sur Ésaïe. Il dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et donc tout de suite après ça, après qu'Ésaïe l'ait purifié là, on voit que son attitude, elle va changer. Au départ, il est un peu recroquevillé. Mais dès que l'ange le purifie, on voit qu'il va parler avec Dieu, que Dieu va lui parler, qu'il va rentrer en relation avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a un vrai switch qui va se passer. Et par la suite, en fait, après cette purification, Ésaïe, il va servir Dieu. Ésaïe, va rentrer comme un prophète, il va être transformé par ce moment-là. Transformé par cette purification, il va être rempli de courage. Il va se passer quelque chose d'assez fort. C'est le point de départ pour lui, cette purification. C'est là que ça commence. Alors, un détail important, c'est que Ésaïe, il n'a pas mérité que Dieu le purifie. Vous voyez, est-ce que c'est un super homme? La Bible ne dit pas ça. Est-ce que c'est parce qu'il a fait des trucs de ouf et que Dieu a dit « Ouais, ok, toi, t'es un bon ». Non, c'est pas dit non plus. En fait, c'est pas ça. C'est Dieu qui a l'initiative de la purification. Ésaïe, lui, il ne peut que recevoir. Il reçoit, c'est tout. Dieu, il utilise cette braise pour nous faire comprendre que si tu veux marcher avec lui, tu dois être purifié. Mais je ne pense pas que ce soit par la braise. Là, croyez-le ou non, mais cette histoire, c'est une préfiguration de Noël. Une préfiguration de Noël. Dieu, il prédit dans cette scène qu'un jour, il va purifier lui-même celles et ceux qui sont contaminés. Pas juste une personne comme là, mais là, c'est toute la terre. Des millions de personnes. Ça annonce prophétiquement Noël, en fait. Pourtant, ça a été écrit 740 ans avant Jésus. Et là, on a une partie de la Bible qui est prophétique, c'est ultra intéressant. Ça veut dire qu'elle annonce les passages qui vont arriver dans l'avenir. Et c'est comme si, voilà, on nous annonce qu'on a besoin d'être purifié. Et Noël, vous allez voir, bah, c'est exactement ça, en fait. C'est là que l'histoire, elle devient encore plus merveilleuse. Moi, que je sais que ce passage me touche. Et on voit que après ce qu'Ésaïe a vécu là, il va annoncer, quelques temps après, il va annoncer clairement Noël. Encore une fois, donc, on est vraiment sur du prophétique. Et ça, c'est assez mystérieux. Donc voilà ce qu'Ésaïe dit quelques temps après ça. Un jour, il parle. Ésaïe dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. L'histoire d'une Vierge enceinte, il n'y en a pas 10 000. Franchement, on peut comprendre rapidement qu'ici, Ésaïe, il parle de Marie et de Jésus. Vous vous rendez compte, en fait, que Ce texte, il a été écrit des centaines d'années avant. Et là, on parle d'une vierge qui va mettre au monde un garçon, qui va s'appeler Emmanuel. Franchement, c'est mystérieux. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire Emmanuel en hébreu, et c'est là où ça devient encore plus incroyable. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ici, il est dit que cette femme vierge va mettre au monde un fils qu'on va appeler Dieu avec nous. Et là, c'est quand même un truc de dingue. Franchement, on touche à quelque chose d'assez ouf. Et c'est là ma partie préférée de l'histoire. Hein. Vous vous rappelez au début du passage, on a vu que Dieu, il est incomparable, plus grand que toute chose, saint et puis encore plein d'autres choses. Et là, la Bible nous dit que, ce Dieu incomparable, immense, infini, il s'est fait homme, parce que là, il s'est incarné dans un petit bébé. Dieu avec nous, c'est ça que ça veut dire. L'enfant que Marie, qu'on a appelé Jésus, elle a mis au monde, selon la Bible, eh bien, en fait, c'est Dieu lui-même qui vient. Le Dieu qui s'est révélé à Ésaïe sur ce trône, eh bien, en fait, il devient un bébé. Le Dieu tout-puissant, glorieux, il devient un tout petit bébé, au milieu d'une étable, en plus. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, c'est ça, Noël. C'est vraiment ça. La Bible nous dit que Jésus, eh bien, en fait, c'est l'Éternel, le Dieu infini. Et il y a comme un truc qui cloche dans cette histoire, parce que les comparaisons sont vraiment dingues, parce que imaginez-vous un Dieu glorieux, un petit bébé. C'est vraiment un truc qui cloche là-dedans. Le maître de l'univers devient un enfant dépendant de ses parents. Pareil. Ça, c'est quoi le sens? Et quel est le but finalement? Quel est le but de cette incarnation? Ok, Dieu, il vient, bon, c'est vraiment incroyable, mais pourquoi? Et bien en fait, c'est pour rétablir la relation perdue avec ses enfants. Pour rétablir en fait cette relation perdue avec nous. Et c'est justement parce qu'on ne peut pas venir auprès de Dieu comme Ésaïe, vous avez vu, c'est impossible d'aller vers Dieu que Dieu lui a dit, moi je vais venir vers vous. En fait, ce n'est pas nous qui allons à Dieu, c'est Dieu qui vient à nous. Et c'est pour ça que c'est complètement incroyable. Il nous a tellement aimés qu'il quitte son trône de gloire pour venir partager notre humanité. Il est devenu un homme, pas un super-homme, un homme comme nous. Et vraiment, ouais, quand on réfléchit à ça, c'est pareil, c'est vraiment un truc qui nous amène loin. Et si Dieu est venu, rappelez-vous, ben, c'est avant tout pour nous purifier de cette fameuse contamination. Pour qu'on puisse rentrer dans sa présence, en fait. Alors la question, voilà, comment Dieu il nous purifie en Jésus? Comment il nous permet d'entrer dans sa présence? Il n'est pas juste venu naître au milieu de nous, au final. Il y a forcément un truc. En fait, Noël, si on peut donner une petite définition, ben, c'est Dieu qui vient pour une mission. C'est ça, Noël. Et là, Jésus va faire un truc encore plus incroyable que l'incarnation, à partir de là. On voit qu'il va vivre sa vie pendant 33 ans à peu près, d'une manière parfaite. Et à 33 ans, il va faire un truc complètement dingue. Il va se sacrifier. Il va se laisser torturer, puis il va mourir sur une croix. Et il avait le pouvoir de sortir de la croix, mais il s'est laissé faire. Et là, personne n'a compris. Il disait, mais c'est quoi ce délire? Il n'avait que un but, en fait, Jésus en faisant ça, c'est de nous permettre de rentrer dans la présence de Dieu, pour rétablir la connexion, en fait. Vous allez voir pourquoi. Cette connexion qui est rompue à cause de notre noirceur à nous. Et le passage d'Ésaïe nous montre qu'on a besoin d'être purifié pour être avec Dieu. Et bien Jésus, il vient pour accomplir cette purification. Il est venu lui-même absorber la noirceur qui est en nous. Et bien, le but de Noël, c'est ça, en fait. Qu'on puisse vivre une relation avec Dieu. C'est ça, le but de Noël. Si tu retiens ça, alors tu as tout retenu. En fait, c'est ça, le but de Noël. Jésus, il va naître sur une terre pour donner sa vie, un jour, en fait. Et la Bible dit que quand il est sur la croix, Jésus, en fait, il absorbe le mal de l'humanité. À ce moment-là, il absorbe un truc surnaturel qui va se passer. Il absorbe ce mal. Et quand il meurt sur la croix, qui souffre, il prend sur lui cette noirceur. Et pour vous aider un petit peu à comprendre, c'est une image encore qui n'est pas parfaite, mais il y a des trucs pour absorber l'humidité, vous savez, dans des pièces qu'on met. Vous le laissez, et puis vous revenez, ça a pris de l'humidité. Ben, Jésus, sur la croix, d'une manière beaucoup plus puissante, il prend le mal de l'humanité, il le prend tout sur lui, il absorbe ça, comme ce contenant, mais d'une manière beaucoup plus grande. Et là, il prend cette impureté sur lui. Et puis il prend nos fautes, il prend ce mal et il va le jeter au plus loin pour nous en débarrasser. C'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes depuis des milliers d'années qui viennent à Jésus et qui sont transformés. Parce que quand il prend le noir, le mal de nos cœurs, il transforme nos cœurs, il nous donne quelque chose de nouveau. Il nous donne d'être de nouvelles personnes. Et là encore, on a des parallèles qui sont vraiment dingues. Dieu, il échange sa couronne de roi contre une couronne d'épines qui lui perce le visage. On voit qu'il est sur un trône élevé, et il va quitter ce trône élevé pour être élevé sur une croix de souffrance. Il délaisse la louange des hommes pour avoir maintenant la moquerie. Il délaisse la louange des anges, pour avoir la moquerie des hommes. Il était glorifié par les anges, et là, sur la croix, mais tout le monde va se mettre devant lui, tout le monde va se moquer de lui. Là, les comparaisons sont ouf. Regardez bien cette scène qui image ça, on voit ça dans Matthieu, donc c'est juste avant qu'il aille à la croix. Et voilà ce que les Romains ils font avec Jésus. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent donc cette fameuse couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui et disant « Salut roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et vous savez, c'est quoi l'ironie de cette histoire ? Ben en fait, c'est que Jésus, c'était bel et bien le roi de l'univers. Là, ils ont mis un manteau, ils ont dit « Oh, mon roi !» En fait, c'était bien le roi. C'est ça l'ironie de l'Évangile. Ces Romains, ils étaient en train de se moquer, en fait, de leur roi. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que Jésus, il est venu pour eux. Jésus, il est venu pour prendre leur impureté. La preuve, son amour est tellement grand, en fait. Il est venu prendre leur impureté à eux qui le tapent et qui se moquent de lui. Jésus sur la croix, ben en fait, ce n'est autre que le maître de l'univers qui s'est révélé à Ésaïe. Tout ça pour qu'on puisse être proche de lui. Et cette impureté, elle nous éloigne tellement de Dieu, en fait, que la Bible, elle dit que si on ne se laisse pas purifier par lui, on va passer l'éternité, après notre mort, loin de Dieu. En fait, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et l'enfer, c'est une mort de souffrance. Et Jésus, il vient pour pas qu'on aille en enfer, en fait. Et c'est pas du tout ce qu'il veut. Son plan, c'est de mourir à notre place, c'est de nous racheter. C'est ça, son plan. Nous racheter de cette mort éternelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté mort, parce que sur la croix, il est mort, bien sûr. Il est mort, il n'a pas que souffert. Mais le troisième jour, la Bible dit qu'il est revenu à la vie pour nous tous. Et il nous dit en fait que celui qui le suit par la foi, eh ben, il ne mourra jamais, dès à présent. Mais aussi pour l'éternité, il sera dans la présence de Dieu. C'est comme s'il dit maintenant que j'ai fait ça, eh ben, tu vas pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, comme Ésaïe. La seule chose qui peut purifier nos cœurs, ce n'est pas une braise, mais c'est le sacrifice de Jésus. C'est ça qu'elle dit la Bible. Et comme Ésaïe, en fait, on ne le mérite pas. Vous savez, Ésaïe, ce n'est pas parce qu'il était bon, mais nous non plus, en fait. C'est pas, au contraire, parce qu'on ne le mérite pas, en fait, qu'il nous donne ça. C'est Dieu qui a l'initiative. C'est lui qui nous offre ce cadeau-là, en fait. Gratuitement, le cadeau de devenir ses enfants. Mais comme Ésaïe, on doit recevoir ce cadeau. Parce que Dieu, il nous donne aussi la possibilité, mais en fait, de le refuser. Il ne nous oblige pas, vous voyez. C'est ça aussi son amour, il nous laisse le choix. Tu peux croire en Dieu et le suivre, ou tu peux ne pas le croire. Mais si tu veux bénéficier de cette purification, alors il faut placer ta foi en Jésus. Le suivre, en fait. Alors voilà les trois points qu'on a vus dans ça, c'est que Dieu est glorieux, l'humanité est contaminée par le mal, et puis en Jésus, Dieu vient nous libérer. Notre question d'introduction, c'était « Quel est le sens de Noël ?» Eh bien, à la lumière de tout ça, le sens de Noël, en fait, c'est Noël, c'est l'histoire de Dieu qui vient en personne pour rétablir le lien avec l'humanité. Dieu, il s'incarne pour rétablir le lien. C'est pas juste pour venir avec nous, c'est pas juste un petit bébé qu'on met sous le sapin, c'est Dieu qui s'incarne. C'est un truc mais incroyable. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Avec nous pour toujours, en fait. C'est tellement... fou de se dire ça, par rapport à tous les courants de pensée qu'il puisse y avoir, un Dieu aussi aimant, c'est unique, c'est vraiment unique. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de réflexion pour finir par rapport à ça, parce qu'on avait plein de trucs, il y a des trucs qui vous ont parlé, d'autres qui ne vous ont pas parlé, Et en tout cas, vous pouvez, pendant ce temps de silence que je vais laisser, bah, juste rester sur ce qui vous parle le plus. Et peut-être que tu es déjà chrétien et que tu as déjà placé ta foi en Dieu, mais que ta vie n'est pas si intéressante avec Dieu. Peut-être que tu n'arrives pas à vivre ce que Ésaïe a pu vivre avec Dieu. Eh bien, je t'invite maintenant dans la prière à prendre ce temps et à te dire « Dieu, il est venu pour toi parce qu'il t'aimait, il voulait tellement que tu sois dans sa présence. Il veut tellement que tu viennes finalement le voir, tellement que tu viennes prendre du temps avec lui. » Et dans ces moments, tu peux juste te rappeler ce qu'il a fait pour toi. Et peut-être que tu n'es pas chrétien, que c'est la première fois que tu entends tout ça et que ça te paraît peut-être bizarre. Mais Dieu t'invite, en tout cas, à ouvrir ce cadeau gratuitement, ce cadeau qu'il te fait, sa vie pour toi. Si tu veux être lavé par Jésus, bah en fait, tu peux juste lui demander. C'est juste ça. Comme Ésaïe, reconnaître simplement, mais en fait, ouais, j'ai un problème dans mon cœur, quelque chose qui ne va pas, et je suis impur, j'ai quelque chose qui me gêne, et voilà, dans ce moment-là, si tu veux le rencontrer, moi, je te laisse ce moment de silence pour prier, et puis au bout de ces 2 minutes, je reviendrai, et je prierai, bon, en tout cas, ouais. Vous pouvez prendre le temps de méditer en tout cas. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais pour nous. Merci mon Dieu parce que tu es tellement glorieux, tellement infini, tellement saint. Et tu viens... Et tu viens pour nous, en fait. Merci parce que tu es tellement grand au-dessus de nous. Et c'est rassurant de se dire qu'on peut se confier en toi. Seigneur, et je te bénis pour qui tu es, mais aussi, Seigneur, tu es venu t'incarner au milieu de nous. Toi, le grand Dieu, tu viens te faire tout petit. Tu échanges ce trône, en fait, pour ce trône de souffrance, uniquement par amour pour nous. Alors qu'en plus, on ne mérite même pas. Seigneur, je te bénis tellement pour ce que tu fais, pour qui tu es. Merci pour cette vie que tu nous donnes dès maintenant. Merci parce que tu veux qu'on soit proche de toi, qu'on soit amis avec toi. Toi, le Dieu infini, tu veux qu'on t'appelle Père. Tu veux nous appeler tes enfants. Et en quelle grâce d'avoir accès à ça. Mais je te prie de toucher le cœur dans ces moments-là, de nous parler. De parler à chacun, à chacune d'entre nous, où qu'on soit, Seigneur, dans la foi ou pas. Aide-nous à entendre finalement ta voix, à entendre qui tu es, nous à te voir comme le Dieu glorieux qui est au milieu de nous. Seigneur, Dieu est avec nous. Je te bénis et je te remets cette fin d'année pour que tu viennes te révéler à nous encore. Seigneur éternel, je te rends grâce pour ça. Amen. Si vous pouvez peut-être garder les yeux fermés dans ces moments, et la tête baissée, je voudrais vous proposer à ceux et celles qui veulent, en tout cas, si c'est ce message te parle, il n'y a que Dieu qui te voit, tout le monde vraiment garder la tête baissée, mais si tu as envie de répondre à cet appel de Jésus, au fait qu'il te purifie, eh ben je te propose de lever ta main. Tu peux ne pas la lever très haute, en fait, mais juste pour que tu prennes cet engagement, peut-être devant Dieu, que tu lui dises que tu as envie d'être purifié, peut-être tu ne sais pas trop comment lui dire. Si tu as envie, tu peux juste lever la main dans ce moment. C'est Dieu qui te voit et qui a envie de venir avec toi. Et Seigneur, je te bénis en tout cas. Viens nous toucher, encore nous parler. Merci parce que tu nous fais grâce. Que tu nous aimes, où qu'on soit, qui qu'on soit. Seigneur, merci. Tu es un Dieu d'amour et on veut te glorifier pour ça, Seigneur éternel. Amen. Yes, merci en tout cas dans ces moments qu'on peut avoir. Je vous propose maintenant qu'on puisse prendre un petit moment d'échange à la fin de nos célébrations. On aime bien parler un petit peu de ce qu'on a vu. J'ai mis 2 petites questions parce que franchement, il y avait déjà beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Alors, si vous pouvez faire des petits groupes de 3, 4 et on peut prendre 5 minutes pour répondre à ces questions. Qu'est-ce que la vision d'Ésaïe
peut changer dans ta foi? Et qu'est-ce que l'incarnation de Dieu vous fait comprendre sur lui? Qu'est-ce que ça vous fait comprendre sur Dieu? On va prendre 5 minutes, n'hésitez pas à tourner les chaises, à prendre du temps. Merci en tout cas.